Mode d'emploi.
.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons ce soir par téléphone une militante d'Alter Libris, la librairie en ligne des éditeurs associatifs, Stéphane Maril, qui nous parlera entre autres de l'association Scolibris, livre solidaire. Mais tout d'abord, les chroniques d'actualité de Jean-Marc, qui commence par nous parler, on en est surpris, de Turquie.
Alors, il fait un vent mauvais, de plus, encore souffle sur la Syrie, un vent noir et qui pue. Le despote des Détroits, l'ignoble Erdogan, ne se contente plus d'embastiller opposants, journalistes, fonctionnaires et Kurdes de Turquie. Il franchit à présent la frontière pour massacrer du Kurde en Syrie. Il faut dire que ces Kurdes embêtent beaucoup Erdogan, car ils osent réclamer un territoire et veulent créer un modèle laïque, égalitaire et démocratique au Proche-Orient, trois choses insoutenables pour le misérable pacha d'Ankara. Le pire n'est pourtant pas là. Le pire, c'est que les États-Unis, comme l'Europe, laissent faire ce massacre sans bouger, que l'ONU, bloquée par les Russes, est encore une fois impuissante. Le pire, c'est que personne ne remette en question la présence de la Turquie au sein de l'OTAN. Le pire, c'est que tout ce beau monde renoue avec le plus pur esprit munichois, abandonner les faibles aux mains des dictateurs en échange de promesses illusoires et jamais tenues. Les Kurdes sont abandonnés, comme jadis les Espagnols face à Franco ou les Tchèques face à Hitler. Bravo l'Europe, bravo les États-Unis, bravo l'ONU.
Alors c'était les Kurdes en perdition, mais il y a d'autres personnes en perdition en France, ce sont les SDF. Mais heureusement, ils sont très peu nombreux, je crois qu'ils ne sont que 50 à Paris.
Oui, heureusement, le ridicule ne tue pas. Sinon, Julien de Normandie, le très connu secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, un jeune homme plein d'entrain et de qualité, qui est entre autres, dans son CV, c'est marqué, gendre du directeur de l'autorité des marchés financiers. On voit que c'est quelqu'un qui s'occupe du peuple. Encore, Julien de Normandie donc a réussi à faire parler de lui. C'était peut-être d'ailleurs l'objectif de cette bourde le 30 janvier dernier sur France Inter. Il a réussi à dire que les sans domicile fixe n'existaient pratiquement plus en Ile-de-France, qu'il restait peut-être une cinquantaine d'hommes isolés. Nous pouvons supposer qu'après les députés En Marche qui gênent de ne pouvoir acheter des Porsche, ceux qui doivent manger des pâtes parce que l'indemnité de l'Assemblée nationale n'est pas suffisante, eh bien le petit Julien de Normandie ne doit pas souvent circuler à Paris, ou alors dans une voiture de service avec des vitres très très fumées. Hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-être qu'avec son maigre salaire de ministre, il n'a pas pu se payer une visite chez l'ophtalmo, ce qui expliquerait sa cécité. Pourtant, si vous faites l'expérience de marcher une heure dans la capitale, de préférence en dehors du 7e, du 8e ou du 16e arrondissement, vous pourrez sans difficulté compter 50 sans-abri, hommes, femmes, enfants, nationaux ou étrangers, sans aucune difficulté. Décidément, la bande à Macron n'est ni à gauche ni à droite, mais carrément à l'ouest, ce qui est logique après tout quand on s'appelle de Normandie.
Tout un programme. Alors, notre actualité bien bien brûlante, là, c'est qu'en ce moment où on s'en gèle certaines, d'autres ont bien chaud. Je parlais évidemment des bourses, ou plus exactement de la bourse américaine, et ça c'est Alex qui va nous expliquer à quel point la bourse américaine vient de plonger.
Et pas que la bourse américaine d'ailleurs. Et donc, comme vous l'avez découvert dans les journaux, ou sinon, parce que Pierre vient de vous le dire, les bourses sont en train de dévisser. Dow Jones a perdu 10% de sa valeur en moins d'une semaine. Voilà, c'est mon petit moment, page rose du Figaro, c'est chouette. Tokyo et Shanghai sont pas bien. Francfort, Paris et Londres, pas beaucoup mieux. Paris se débrouille relativement bien, mais bon, en attendant que ça dévisse aussi. Et d'où la question que tout le monde se pose.
Angela Davis, oui, bien sûr.
Effectivement. D'où la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est grave?
Et est-ce qu'il faut acheter ou vendre?
Et voilà, exactement.
Parce que moi j'ai une petite action et j'aimerais bien savoir.
Ouais, mais l'action réveille le blanc.
Voilà, bon, bah, du coup on va passer à l'action. Hein. Alors est-ce que c'est grave? Eh bien c'est pas évident pour répondre. Le diagnostic, celui qu'on trouve dans les journaux, justement, le diagnostic du docteur, c'est qu'il s'agit d'une correction, que dans quelques mois, le marché va se rétablir, qu'on va repartir à la hausse, comme normalement. Autrement dit, si on veut faire une petite métaphore, c'est une petite grippe. 3 jours au lit, et le malade va être en pleine forme. Mais, en fait, personne n'est tellement rassuré par ce diagnostic-là, et tout le monde se demande si cette petite correction qui a rougi les fesses de Wall Street ne constitue pas, en fait, les prémices du Big One. Alors qu'est-ce que c'est que le Big One? Ben, le Big One, c'est le surnom qu'on donne au tremblement de terre énorme qui va inévitablement toucher la Californie un jour. Mais on ne sait pas quand. Ça pourrait être la semaine prochaine ou dans 2000 ans. Mais ça arrive inévitablement, ça arrivera inévitablement car la Californie repose sur une énorme faille, la faille de San Andreas. Et bien pour la finance, c'est un peu pareil. Elle repose sur une faille. Savoir si elle est énorme, c'est une autre question. Et ça fait 5-6 ans qu'on le sait et qu'on s'attend à une grosse crise.
Bah, depuis le temps qu'on l'a lancée, elle s'élargit, la faille.
Certes. Explication. En 2008, pour éviter l'effondrement du système, et plus largement du système bancaire et plus largement du système financier, on a pratiqué ce qu'on appelle, par un délicieux euphémisme, des politiques monétaires accommodantes. Autrement dit, les banques centrales ont racheté des actifs pourris, renfloué des banques pourries, distribué des liquidités à des taux particulièrement faibles pour encourager l'investissement et faire repartir l'économie. Ça, c'était il y a 10 ans. Alors, en quoi ça nous concerne aujourd'hui? Bah, le problème, c'est que les banques centrales ont continué à pratiquer des taux très bas, même quand l'économie repartait, et que l'économie, elle a quand même mis beaucoup, beaucoup de temps à repartir. En principe, les liquidités distribuées par les banques centrales doivent, en fin de circuit, alimenter l'économie réelle, permettre à autres commerçants de fruits et légumes préférés de se racheter une camionnette à un coût pas trop prohibitif. Or, ce qu'on a vu depuis 2009, c'est une croissance plutôt molle de l'économie réelle et une croissance un peu dingue des marchés financiers. Par exemple, le Dow Jones, pendant la crise, est passé de 12 000 points à 24 000 aujourd'hui. En deux temps, hein.
Tu veux dire que les héros de 2008 qui ont sauvé le monde auraient créé une nouvelle crise ?
Bah, c'est un petit peu de ça dont il s'agit. Alors, en deux temps, pour être clair, c'est-à-dire la crise proprement dite, hein, on passe de 12 000 points en 2008 à 7 000 en 2009. Donc là, c'est ce qu'on appelle, en langage technique, une sévère correction. Le patient, il est au bord du coma. Puis entre 2009 et 2018, ben, on est passé de 7 000 à 24 000 points. Autrement dit, la valeur des actifs financiers a été multipliée par 3, alors que le PIB des USA a augmenté en moyenne de 2% par an dans le même temps. Et là, il y a un léger problème, une légère disproportion entre les deux, un petit décalage. Le problème, c'est que la valeur des actifs financiers est en fin de compte indexée sur le rendement de ces actifs. Là, parler un petit peu technique, mais sur ce qu'ils rapportent à leurs propriétaires. Chiffre qui doit avoir quelques rapports, en toute logique, avec le niveau de profit des entreprises et l'évolution du niveau de profit. Quand le décalage entre le rendement d'une action et son prix augmente de manière disproportionnée, on peut légitimement s'inquiéter. C'est en général le signe que la spéculation se porte bien et gonfle le prix des actifs et de l'ensemble des produits financiers. Et la spéculation fonctionne toujours comme une machine de Ponzi. On va essayer d'être un petit peu plus clair. Pour dire les choses le plus clairement possible, c'est une arnaque qui s'auto-entretient tant que les pigeons n'ont pas découvert le pot rose. Le poteau rose. C'est-à-dire le fait que les sommes investies pour...
C'est parler Bernard Madoff.
Oui, si on veut.
Ou Stavisky.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire le fait que les sommes investies par les derniers acheteurs servent uniquement à distribuer des profits aux précédents acheteurs. Et alors, il y a un moment, il y a une accumulation d'acheteurs, de plus en plus d'acheteurs, puis il y a un moment, il n'y a plus d'acheteurs qui viennent. Et là, tout s'écroule. Et le jour où les pigeons découvrent le truc, tout s'effondre. En langage savant, ça s'appelle l'éclatement de la bulle. Or, la raison principale qui explique l'exceptionnelle santé de la bourse durant les 9 dernières années, ce sont les politiques accommodantes des banques centrales, les taux d'intérêt bas. Ces politiques ont été utiles pour éviter une grande dépression, mais elles ont eu aussi pour effet secondaire d'alimenter la butte financière. Et alors, comme les gens qui nous dirigent ne sont pas forcément des imbéciles, et là je vais en citer une, Madame Janet Yellen, la patronne de la Fed, la banque centrale américaine, en était parfaitement consciente. Elle savait que pour éviter une sévère correction, il fallait remonter les taux. Mais pour faire décrocher un drogué, hein, il faut pas le faire d'un coup, il faut diminuer les doses tout doucement. Et donc ces 3 dernières années, constatant le regain de l'économie américaine et la baisse du taux de chômage, elle a tout doucement instillé l'idée qu'on allait tout doucement, un quart de point par trimestre, augmenter les taux, remonter les taux d'intérêt directeurs pour pouvoir atterrir en douceur, revenir sur Terre. Mais patatras, pas de bol, le grand dadé est arrivé. Donald Trump a décidé de faire un grand plan de relance à la républicaine.
Ah,
exactement
lui,
comme Reagan.
C'est lui que tu as appelé faille de...
Non, la faille, c'est...
La faille sous-marine.
Sinon, je connais faille Dunaway aussi.
Faille Trump, c'est peut-être le dernier fils de Trump, peut-être.
Et donc, je reviens à mon grand plan de relance à la républicaine. Exactement le coup que nous avait fait Reagan dans les années 80. Baisse d'impôts pour les plus riches, ceux qui placent leur argent dans le système financier, qui ont les moyens de spéculer, etc.
C'est Macron, ça.
Voilà. Dépenses militaires en hausse.
C'est Macron.
Conséquence prévisible, une hausse du déficit public et éventuellement une possible inflation. Mais il n'est pas con, Donald Trump. Donc de l'autre côté, il a choisi quelqu'un de sérieux pour se couvrir. Il a placé un gars sérieux qui vient juste de remplacer Madame Janet Yellen, Monsieur Jérôme Powell, qui donc est à la tête de la Fed. Un gars qui va lutter contre l'inflation. Un gars qui... En remontant les taux. Et donc du coup, angoisse à la bourse. Au moindre signe d'inflation, le gars sérieux va remonter les taux et déclencher une sévère correction boursière. Et si les taux sont élevés, ben il va y avoir moins d'argent qui va rentrer dans le système et la spéculation, elle va s'effondrer. Or, la semaine dernière, on a eu un petit signe, cette petite chose qui nous dit qu'il pourrait y avoir de l'inflation. Presque rien. L'année dernière, les salaires ont augmenté de 2,9% au lieu de 2,5% attendu. C'est pas grand-chose, hein. Mais on sait que ces maudits salariés, quand leur salaire augmente, ils consomment davantage. Et s'ils disposent d'un plus grand pouvoir d'achat, mais que la production ne suit pas, bah les prix vont augmenter. Et si les prix augmentent, bah c'est l'inflation. Et si l'inflation pointe, les taux vont remonter. Et si les taux remontent, la bulle va éclater. Et la bulle éclata. Point d'interrogation. Alors, comme j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire que la bulle est en train d'éclater ou qu'elle va éclater, etc. Et alors, plutôt que de faire une conclusion un peu bof-bof comme ça, je vais vous citer un grand économiste français qui s'appelle Patrick Artus, qui travaille pour Natixis. Je cite. « La dynamique du capitalisme est aujourd'hui bien celle qu'avait prévue Marx. La baisse de l'efficacité des entreprises impliquerait une baisse du rendement du capital. Les entreprises réagissent à cette évolution, réduisant la part des salaires pour augmenter celle des profits. Cette stratégie ayant une limite, les capitalistes se lancent alors dans des activités spéculatives qui font apparaître des crises financières. »
Comme quoi, Marx a tout inventé, ou plutôt l'homme n'a rien inventé de nouveau, quoi, sous le soleil de l'argent. Eh bien, nous enchaînons avec notre invitée qui est au téléphone. Elle nous appelle du Gard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, bonjour Stéphane Maril. Donc, tu es directrice de Scolibris, qu'on appelle aussi Livre Solidaire. Et tu es aussi directrice de Alter Libris, la librairie en ligne des éditeurs associatifs. Dans ce cadre-là, on te reçoit avec grand plaisir pour écouter et nous décrire ce qu'est cette association Alter Libris. Alors, Alter Libris, on peut peut-être commencer d'abord par l'historique, et l'historique, c'est Scolibris.
Oui, c'est ça. Ben, merci déjà de m'avoir invité, Pierre. Alter Libris, c'est un projet de Scolibris au départ. Et Scolibris, c'est une association qui est formée par un réseau de professionnels du livre. Mes potes, en fait, que j'ai rassemblés autour d'un projet, et en 2010, et ce projet, c'était apporter du conseil, de la formation, apporter du soutien aux structures locales africaines qui publiaient des livres et qui n'avaient pas accès au seul marché économiquement viable, comme le livre scolaire, parce que ces marchés, comme dans bien d'autres secteurs, sont accaparés par des éditeurs français, canadiens et j'en passe. Et donc, on a commencé à travailler avec des associations françaises pour faire ce soutien. On a travaillé en Côte d'Ivoire, au Mali, dans l'océan Indien aussi. Et de fil en aiguille, il y a des associations françaises avec qui on a travaillé ou qui nous connaissaient, qui nous ont dit « Mais vous, est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main pour nos livres en France ?» Parce que nous, on a des livres, on voudrait les faire connaître, vous êtes des professionnels du livre. Voilà. Alors, nous, on pouvait pas soutenir un livre, une association, parce que ça, on peut le faire quand on fait de l'édition, mais pour commercialiser des ouvrages, il faut en avoir plusieurs, il faut être libraire, en fait. Donc, on a récolté les demandes, et puis on a fait une enquête qualitative en 2012. Donc, je dis qualitative parce que on est bénévole, hein, donc c'est une personne qui a appelé des dizaines, voire des centaines d'associations sur Paris, un petit peu l'Île-de-France, pour voir et leur demander est-ce que vous avez des livres et comment vous les diffusez, est-ce que vous les vendez, etc. Et il s'est avéré que 10% des associations culturelles avaient au moins un livre à leur actif. Donc ça nous a confirmé le besoin et en 2014, on a créé le site Alter Libris qui a été grâce à un soutien de la mairie de Paris. Et puis très vite, poussé par des bénévoles comme Lisiane Mangin, on s'est mis à présenter les livres sur des stands à des événements plutôt militants comme la fête de l'humanité à la Courneuve, le PIAF de Pierre Lay, Colère du présent à Arras, mais aussi le salon de l'autre livre, le salon du livre indépendant à Paris, et voilà. Donc là, les auteurs viennent, rencontrent un autre public, des gens découvrent des livres qui correspondent à d'autres formes de militance, voilà. Et donc,
D'accord. Alors, donc, si on veut un peu expliquer la démarche, c'est, je sais pas, genre, je suis une association, là, je parle avec une voix d'association, et je dis, voilà, je viens d'écrire un livre, j'y ai mis du temps, j'y ai investi, j'y ai mis tous les souvenirs d'association, les envies de plein d'individus qui ont travaillé pendant des années, qui, grâce à lui, grâce à ce livre, vont pouvoir amener aux gens énormément d'idées, un bel avenir. L'imprimeur vient de nous apporter 10 cartons de livres bien pleins, et là, on se demande, nous, association, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'Alter Libris peut intervenir.
C'est ce qui arrive quand même dans pas mal d'assos, c'est qu'on pense aux livres qu'on veut faire, qu'on doit faire, et puis après, on se retrouve avec ses colis et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, nous, dans ce cas-là, on intervient déjà en ciblant avec les associations leur public. Si c'est un livre de réseau, un livre de mémoire de l'association, on ne pourra pas le sortir de ce réseau-là. Donc on va plutôt les aider à bien communiquer dans leur réseau et dans les réseaux autour pour vendre ce livre ou le faire connaître, le promouvoir dans leur réseau. Après, il y a une partie des livres produits qui peuvent intéresser d'autres publics. Et ça, beaucoup d'associations sont concernées par ça, mais c'est des petites associations ou des grosses, mais qui n'ont pas de service éditorial. Donc là, elles ont deux possibilités, soit de promouvoir, diffuser et distribuer, ça veut dire finalement commercialiser leurs ouvrages elles-mêmes, mais ça c'est un très gros boulot, parce qu'il faut démarcher les librairies, il faut donc leur apporter les livres qu'elles veulent bien commander. Pendant deux mois, disons, les libraires essayent de le vendre, de promouvoir le livre. Après, il peut le rendre. À ce moment-là, c'est l'éditeur qui doit récupérer le livre à ses frais. Et puis, il faut suivre les commandes, qui c'est qui a vendu quoi. En termes de comptabilité, c'est la diffusion-distribution, c'est un vrai travail. Et souvent, dans les associations, il n'y a pas assez de bénévoles ou de salariés professionnels pour faire ça.
Et alors, quelles sont les associations qui font partie du réseau, enfin plus exactement qu'Alter Libris est venu en aide? On peut peut-être prendre des exemples de petites ou de grosses associations pour voir.
Alors nous, on intervient pour des petites associations comme par exemple Graines de Savoir et Soif d'Apprendre, Escalétique, les Xérographes. Donc Graines de Savoir, ils font des ateliers, ils font des livrets de contes avec des enfants burkinabés, dans des écoles burkinabées et... des écoles françaises qui ont une vraie compétence maintenant dans les livres. Ils ont plein de petits livrets comme ça de contes. Escalétique, c'est un peu la même chose, mais c'est en bilingue, donc c'est en langue togolaise dans mon souvenir. Et puis les Xérographes, ça c'est une association parisienne qui fait aussi des trucs super. Elle a fait un livre notamment de recettes avec des gens du quartier de la Goutte d'Or. Donc ces associations-là, elles sont pas du tout ou très très peu représentées en librairie. Et nous, on leur apporte la possibilité de la vente directe en plus de leur propre site, hein, évidemment, si elles en ont un, par le site Alter Libris, et puis la communication, la présence sur des stands. Qu'elle ne pourrait pas financer elle-même ou elle ne pourrait pas mobiliser des gens pour aller à tous ces événements. Donc là, on leur apporte la possibilité de...
Alors donc ça, c'est un peu la pratique. Si tu peux parler un petit peu plus fort dans le téléphone. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, concrètement, vous êtes donc un lot de bénévoles. On décrira un peu plus tard qui sont les bénévoles. Mais quels sont, par exemple, sur un stand, vous pouvez faire quoi? Comment vous arrivez à diffuser, expliquer les livres autour de vous?
Alors, sur un stand, chaque bénévole connaît une partie du fonds qu'on représente. Et c'est tout bête, c'est une librairie hein, éphémère, mais c'est une librairie, c'est-à-dire que les gens viennent nous voir, on discute un petit peu avec eux, souvent on prend du temps pour discuter, et ils s'intéressent à tel ou tel livre, et on va commencer à en parler, ou leur parler d'autres livres en fonction de ce qu'ils nous disent qui pourrait les intéresser. Et c'est là aussi tout l'atout d'avoir un catalogue collectif, c'est qu'on peut leur montrer un mixage de livres qui vont les intéresser, qui sont d'éditeurs différents, d'associations différentes. Et puis, Il y a des gens qui viennent pour quelque chose d'un peu plus oisif, par exemple, et puis qui vont voir un essai à côté, on va se mettre à en parler et repartent avec contre les publicités sexistes de l'échappée ou sans papier d'Utopia, alors qu'ils étaient venus pour acheter le petit colibri de Pierre Rabhi. Et donc voilà, c'est vraiment l'expérience sur stand, c'est une expérience intéressante.
Et de l'autre, il y a l'activité stand, et puis vous avez un très joli site internet, Alter Libris, où tout le monde peut aller fréquenter, oui, aussi assidûment qu'il le souhaite.
Oui, c'est ça. On a un site. Après, le site, c'est vraiment pour les faciliter la représentativité des ouvrages, des associations sur internet. Aujourd'hui, elles ont vraiment besoin de ça, donc c'est quelque chose de en plus par rapport à ce qu'elles peuvent faire pour faciliter leur présence. Mais les ventes sur notre site ne sont pas aussi élevées que sur stand. Ouais.
D'accord. Voilà. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale et on reprend après pour continuer à parler d'association Alter Libris. On va écouter justement quelqu'un qui n'a pas forcément d'éditeur derrière elle. Elle s'appelle Alyssa Wens et elle va nous chanter entre 16h et 16h30.
La journée de boulot démarre. Je cours les rues et les métros, je surveille l'heure. Je suis en retard. Nouveau message de Margot. Tu dis que tu aimerais me voir, bien sûr, bien sûr. Entre 16h et 16h30, courant toujours après le temps qui est loin. Le temps de l'attente, le temps où l'on flâne en rêvant.
.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Manque d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous poursuivons notre intervention téléphonique depuis le Gard de Stéphane Maril, qui est directrice de l'association Alter Libris, la librairie en ligne des éditeurs associatifs. Alors on a quelques petits problèmes sur la ligne téléphonique, c'est sans doute dû à la neige et aux intempéries, alors on va reprendre. Est-ce que tu es bien là, Stéphane ?
Oui, je suis là.
C'est parfait, on t'entend parfaitement là maintenant.
Ah bah alors je ne bouge pas.
Voilà. Alors, on était en train de parler d'Alter Libris, on a vu que c'était une librairie associative qui est là en aide à la diffusion et la distribution d'ouvrages de petits éditeurs ou carrément d'associations qui ont du mal à diffuser leurs livres. Et derrière, évidemment, toute cette action, il y a un site web et il y a beaucoup d'interventions sur les stands pour une sorte de librairie éphémère. Et tout ça, ça demande des bénévoles. Alors, quels sont les bénévoles que tu peux nous décrire de cette association ?
Alors les bénévoles d'Alter Libris, il y a deux types de bénévoles. Il y a une dizaine de bénévoles qui sont actifs régulièrement et qui participent à la vie permanente de l'association. Et puis il y a une autre dizaine, je dirais, même si je les ai pas comptés, parce que ça bouge, qui viennent sur les stands et qui filent un coup de main sur les stands ou viennent font une petite mission très ponctuelle. Dans les bénévoles actifs permanents, il y a surtout des gens qui sont qui viennent du monde du livre et qui viennent pour des raisons différentes les uns et les autres, les unes et les autres en fait, hein, parce que c'est essentiellement féminin. Et puis il y a quelques personnes qui peuvent venir du milieu de la communication ou des choses comme ça, mais c'est plus rare. Et c'est donc voilà, c'est surtout des femmes hein, d'une trentaine d'années. Elles ont des motivations très variées. Ça dépend vraiment, c'est chaque personne a sa propre histoire avec Alter Libris.
Alors justement, tu parlais d'Amélie par exemple, qui a été libraire et qui a quitté le monde du livre.
Amélie, c'est le pilier de l'association. Amélie Fouquet, elle typiquement, elle était libraire, oui, dans une grande surface. Elle a quitté le monde du livre pour lancer son activité de traiteur très engagé, Lemon Pie, de produits bio, locaux, avec une démarche environnementale très poussée. Et elle intervient au sein de c'est la trésorière aujourd'hui d'Alter Libris. Et elle a développé cette activité au sein d'Alter Libris parce qu'elle avait besoin de continuer quand même à travailler dans le livre qui la passionne, et mais dans une structure qui correspondait à ses idéaux et à ses engagements personnels. Il y a d'autres profils. Il y a Lysiane Mangin qui est la secrétaire. Elle est une éditrice freelance. Elle est à l'origine de l'association avec moi. Elle est très militante, elle est passionnée par le livre et elle souhaitait trouver un milieu engagé proche de son métier. Et puis elle avait envie de découvrir des livres qui sortaient de l'ordinaire, de faire connaître ses livres. Elle avait envie de défendre certaines associations qu'elle aimait et donc présenter leurs livres là où on les attend pas. Donc voilà, elle a une motivation liée à un engagement de départ et une passion pour le livre. Chacun a comme ça son il y a Chloé Erla aussi qui est arrivée il y a très peu de temps, il y a quelques mois. Bon, elle est complètement elle est arrivée, l'association était déjà très structurée et elle s'est reconnue dans l'ADN d'Alter Libris et ce qui l'attire et ce qui lui elle s'épanouit dans l'association par la rencontre avec des gens passionnés et engagés, que ce soit les membres associatifs ou les bénévoles.
Alors tout ça, ça donne bien envie de rejoindre cette association, puis peut-être aussi d'apprendre à faire partager les livres qu'on aime, qu'on voudrait découvrir aussi autour de nous. Et alors, j'en ai rencontré d'ailleurs sur un stand à la fête de l'UMA, et
oui,
on m'a dit
voilà,
tout
oui,
de suite,
oui.
Le premier m'a dit pour faire la pub, alors est-ce que c'est vrai qu'en fait Alter Libris, c'est l'Amazon de l'édition alternative?
Oui, bah, je sais qui c'est qui a dit ça, c'est Ben. C'est un bénévole que j'aime beaucoup. Bon, moi, chaque bénévole a sa propre interprétation de ce qu'on est, et c'est très bien comme ça. Après, on a des engagements très clairs et très structurés vis-à-vis de nos membres et vis-à-vis du public aussi. Mais après, chacun s'approprie Alter Libris comme il le veut, et ça fait partie de la beauté aussi de l'association. Moi, je dirais que ma vision des choses est assez différente, parce que Amazon, c'est la foire fouille. Vous pouvez tout trouver tout ce que vous voulez. Nous, c'est un catalogue raisonné. C'est des livres qu'on aime. On les a lus. On propose cela et pas d'autres. Et on propose surtout des livres qui sont d'association. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des très, très bons livres qui existent qu'on ne représente pas, parce que on a un engagement vis-à-vis de nos membres, c'est de représenter les associations. Et c'est celle-là dont on veut faire entendre la voix. Donc moi, je nous situerais un peu à l'opposé. Après, on n'a pas la même politique de frais de port qu'Amazon, hein, parce que nous, on est comme les autres, on est obligés de les faire payer. Après, moi, je pense que Amazon, c'est une fausse... l'accès qu'il y a sur Amazon, c'est une fausse liberté. On a accès à tout, mais on a aussi accès à n'importe quoi. Et finalement, on a accès qu'à ce qu'on vient chercher. Je pense qu'aujourd'hui, dans le livre, comme dans plein d'autres secteurs, l'accès, il se fait parce qu'il y a quelqu'un qui va proposer, qui va faire connaître et qui va dire « Viens voir par là, viens lire ce livre ». Et moi, je trouve ça plus démocratique d'avoir peu de livres, mais de les défendre et d'avoir un dialogue avec les clients, que de dire « servez-vous ».
Voilà. Mais alors, ça c'est un peu le travail. Je continue à faire un peu l'avocat du diable. Hein. C'est le rôle de l'intervieweur, je crois. Alors, ça concurrence un peu la librairie de quartier, cette démarche, non ?
Oui, alors, oui et non. Mais oui, dans une certaine mesure, c'est d'ailleurs le rôle principal, et c'est pour ça qu'il faut défendre les librairies de quartier. Parce que c'est dans ces lieux privilégiés qu'on peut avoir ce dialogue, et que le libraire a ce rôle de conseil, et ça, c'est très important. Nous, sur stand, on ne se sent pas en concurrence avec eux, parce qu'on est avec des libraires et des éditeurs, et notre logique, c'est plus le livre est représenté sur un événement, mieux c'est. Donc il n'y a pas vraiment on est plus confrères que concurrents. Sur le site, c'est autre chose. Alors, encore une fois, le site, pour nous, c'est une vitrine. Hein. On fait finalement peu de ventes. On vend surtout des livres qu'on ne peut pas trouver ailleurs sur le site, et donc pas en librairie. Mais pas de manière... c'est pas un choix. Hein. C'est parce que les personnes n'ont pas pu... les associations n'ont pas pu avoir de diffuseurs-distributeurs, n'ont pas pu avoir de contrat pour pouvoir aller en librairie. Et donc sur le site, c'est vrai que Internet est en concurrence la librairie de quartier, Mais nous, on a un vrai dialogue avec les clients, en leur disant partout et tout le temps, on leur dit, vous pouvez, si le livre n'est pas dans votre librairie, vous pouvez l'acheter, vous le paierez pareil que à la FNAC. Et on a un rôle comme ça de communication sur sur cet aspect-là de la du monde du livre, le prix unique, etc. Par exemple, à Scolibris, on a publié Maclé Alpha, des outils d'alphabétisation. Et donc, on a eu pas mal de commandes. On les a publiées en septembre. On a eu pas mal de commandes directement sur Alterlibris, parce que c'est Scolibris qui a publié ses ouvrages avec les éditions Retz. Et on a tout le temps, on a redirigé, très souvent, on a redirigé les gens vers leur librairie.
Alors, rediriger les gens vers la librairie, peut-être, mais Internet, quand même, ça, est-ce que c'est une démarche si positive que ça, la diffusion par Internet? Est-ce que là, l'accès aux livres, finalement, c'est quand on les touche? Ou alors c'est penser que chacun dans son village peut quand même avoir accès à la culture? On est pris entre les deux?
Alors, nous, moi, je respecte, on respecte tous totalement les gens qui sont très militants anti-Internet. Ça n'est pas notre démarche. Nous, on prend les mêmes moyens que les autres, que ce qui se fait, et on considère qu'il faut y aller. Pour nous, Internet, ben, ça facilite l'accès aux livres, et c'est vrai que ça facilite pas le rapport avec la librairie et la librairie indépendante. Après, aujourd'hui, les libraires indépendants se mobilisent, font de très belles choses, et en fait, il faut faire connaître ces choses. Je pense notamment à Paris Librairie et tous ces sites qui permettent de faire d'avoir à domicile ses livres, d'aller les chercher où on veut. On voit dans quelle librairie ils sont et on peut les réserver, on peut aller les chercher. Maintenant, il y a beaucoup de librairies qui ouvrent tard le soir. Hein. Donc, les libraires se mobilisent. Il y a un site notamment qui rassemble, qui est un moteur de recherche qui rassemble toutes ces initiatives, qui s'appelle librairieindépendante.com, je crois. Et donc voilà, les libraires font des choses, se sont emparés de l'outil Internet pour les librairies indépendantes, les 3000 librairies indépendantes françaises se mobilisent pour faire des choses comme ça. Elles ont des sites de plus en plus développés et elles proposent des solutions pour donner accès aux livres à distance, mais aussi pour faire venir les gens dans leur librairie.
Eh bien, ça m'a bien éclairé, je pense. Vous aussi, je pense aussi. Ce mouvement Alter Libris, qui est finalement une partie émergente de tout le milieu de l'édition, le milieu associatif, pour l'accès à la culture pour tous. Tu as parlé aussi de l'accès jusqu'aux plus lointaines contrées africaines. Et tout ça, c'est très positif. Et puis, on voit que c'est un mouvement qui n'est pas contradictoire. Et voilà, si vous avez des prochains cadeaux à faire, bon, Noël est passé, mais pensez à Alter Libris ou à librairieindépendante.com plutôt qu'Amazon. Voilà. À la fois pour acheter, mais aussi pour avoir plein d'idées.
Merci beaucoup, Pierre. Merci à toute l'équipe. Et puis à une prochaine.
Et merci. Et bien, on fait une petite pause musicale, n'est-ce pas, Gaël?
Oui, avec Caetano Veloso qui va nous chanter Chega de Saudade.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Muito obrigado.
.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Monde d'Emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous reprenons avec, pour une fois, pas une chronique, mais un vrai débat de fond avec Jean-Marc, qui veut nous parler de son meilleur ami, j'ai nommé son ministre, Jean-Michel Blanquer.
Alors, Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre de l'Éducation, et pour une fois, c'est à ce poste, c'est rare, c'est quelqu'un qui connaît bien l'éducation nationale et ses rouages, ce qui aurait pu être un avantage si ce monsieur n'était pas totalement de droite, adepte du management et de la com, plus que de la pédagogie, et plus encore, adepte des économies budgétaires. Ces économies, qui sont le credo de la plupart des ministres depuis le pas du tout regretté Claude Allègre, au siècle dernier, qui dégraissait déjà le mammouth, sont depuis monnaie courante. Le problème, c'est qu'à force de dégraisser le mammouth est à l'os depuis longtemps, et que pour envisager de nouvelles coupes, c'est le squelette lui-même qu'il faut attaquer. Ce qui explique en partie l'attirance du ministre et du gouvernement pour une, entre guillemets, simplification du bac, qui servira de fer de lance à la disparition progressive de certains enseignements et filières trop coûteux au goût des crânes d'œufs ultralibéraux de la Macronie, et devrait permettre, autre vision Macron compatible, de doper l'éducation privée, bien évidemment. Parce que l'échec de l'une, c'est parfois le succès de l'autre. Blanquer est aussi un visionnaire. Il aime à le faire croire, mais ses visions, qu'elles soient politiques ou pédagogiques, le conduisent, comme c'est étrange, toujours vers les effets d'annonce, les paravents, les faux-semblants. Blanquer va faire travailler des neurologues sur l'éducation. Waouh ! Quelle belle annonce ! Comme c'est moderne et scientifique. Mais à quoi cela va-t-il servir ? Silence, on tourne, c'est pour le 20h. Les questions se rapportent plus tard. Blanquer annonce le dispositif « Devoir fait », un grand pas vers l'égalité des chances. C'est beau comme de l'antique. Ça brosse les parents dans le sens du poil, ça plaît même à beaucoup de profs qui n'ont pas regardé le détail de l'opération. Blanquer annonce l'augmentation des aides personnalisées, banco. Blanquer fait sauter la banque en annonçant des CP et des CE1 dédoublés dans les zones les plus défavorisées. Quelle merveille, quel sens de l'égalité républicaine. Bref, Blanquer n'est pas loin d'entrer au panthéon de l'éducnat, sauf que, malheureusement, rien n'est préparé, rien n'est financé, comme d'habitude. Aucune embauche supplémentaire prévue dans le secondaire et même une diminution très sensible des horaires alloués aux établissements dans la plupart des régions et même pour des établissements classés en REP, les établissements sensibles, et REP+, les établissements très sensibles. Pour exemple, le collège très connu Garcia Lorca à Saint-Denis, le plus dur de toute la ville, qui elle-même n'est pas toute rose, perd 40 heures d'enseignement. Les postes au concours ne sont pas augmentés, tandis que les départs en retraite continuent d'être numériquement importants. Qui va donc faire ces heures ? Les profs ? En faisant 7, 8, 10 heures sup chacun ? Les assistants pédagogiques, qui sont en sous-effectif et n'ont souvent aucune formation ? Nul ne le sait. Mais l'important, c'est que la presse en parle. L'illusion de l'action en Macronie vaut cher, aussi cher que l'action elle-même. Qui va assurer les dédoublements dans le primaire, puisque les postes aux différents concours ne permettent même pas de boucher les trous, qu'il n'y a même pas assez d'instits depuis des années pour assurer les remplacements ? Comment a-t-on financé ces heures pour le primaire, au fait ? C'est simple, la réduction des heures dans le secondaire. Bref, une situation grotesque, encore et toujours, pour l'éducation, qui est toujours annoncée par tous les gouvernements comme une priorité, mais qui continue d'être dépecée, comme tous les pouvoirs publics au détriment de l'avenir des enfants, par des mercenaires du libéralisme. Pour finir ce triste propos, un contre-pied de Victor Hugo, qui disait « Quand on ouvre une école, on ferme une prison ». Eh bien, le littéraire Macron, lui, ferme des écoles, mais n'ouvre pas de prison non plus. Quelle sera donc la morale de cette triste fable ?
Une triste fable, mais quand on voit Blanquer, on n'a pas l'impression qu'il raconte des fables, hein, plutôt des histoires pour faire peur, non ? Je sais pas. Il a une tête comme ça.
Alors, on va parler. Le fils naturel de Giscard, finalement.
Oui, pas faux.
Pour compléter ce qui vient d'être dit, hein, toujours sur Blanquer, ce grand projet de réforme du lycée, c'est le lycée modulaire. Alors le lycée modulaire, c'est magnifique. Les élèves auront le choix dès la seconde des matières qu'ils vont suivre. Ils pourront choisir, ils auront un tronc commun. Et puis au-delà du tronc commun, ils pourront choisir des options majeures, des options mineures, avec des choses mises en place. Et puis, donc, il y a le rapport Mathiot qui explique ça en long, large détail, 60 pages. Et quand même, au bout du compte, on a la raison principale de cette réforme, il y en a plein, mais il y en a une qui est fondamentale. On va diminuer le nombre d'heures par élève. On parle de 25 heures ou de 27 heures au lycée.
Voilà. Alors ça, c'est un mythe, hein, faire plus avec moins, ou surtout dire que finalement, les pauvres qui ont besoin d'éducation, est-ce qu'ils en ont besoin autant ? Alors je vais vous parler d'un...
Je t'arrête une seconde. C'est encore mieux que ça. C'est faire mieux avec moins d'heures par lycéen.
Alors je vais vous parler d'un autre mythe, un mythe dont on a entendu parler ces derniers temps, c'est la mythe du théorie du ruissellement. Alors qu'est-ce que le ruissellement ? Faut repartir un petit peu. Même Sarkozy n'avait pas pensé à ça. Macron a réussi à supprimer l'impôt sur la fortune. L'ISF a disparu. Macron a réussi. Il faut prendre pour quand même. Il faut reconnaître ses bienfaits à Macron. C'est un vendeur, un super vendeur des plus légumes, un vendeur de porte à porte, un type capable de convaincre un ouvrier exploité qu'il doit voter pour enlever les impôts de son propre patron. Il est quand même fort. Même ses ministres, hein, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, il y a quelques années quand il était à droite, vous savez, là on ne sait plus trop où il est, mais il est toujours à droite, je crois. Jugeait que l'impôt sur la fortune, c'était une mesure de justice sociale. Mais non, Macron l'a effacé. Mais comment est-ce qu'il peut justifier ça? Ben justement, par ce fameux mythe du ruissellement. Alors, il dit pas ça exactement comme ça. Il dit « les riches investissent dans l'économie française ». Alors, ça, c'est beau comme un discours de Trump. Hein. C'est logique comme une intervention de la regrettée Nadine Morano. Favoriser les riches pour aider les pauvres. Alors, si je résume ce raisonnement économique, alors je ne vais pas citer de grand économique, je vais juste faire ce petit texte. Hein. Les plus fortunés épargnent, en moyenne, plus que les pauvres. Parce que les pauvres, ils dépensent tout. Si les riches deviennent plus riches, par exemple, une bonne petite réduction d'impôts, cet argent viendra donc alimenter davantage l'épargne nationale que si cette même richesse avait été distribuée à des ménages moins favorisés. Or, l'épargne gonfle l'investissement. L'investissement d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain, donc les emplois, lesquels produiront un salaire, y compris pour les plus pauvres. C'est QFD. C'est le raisonnement parfait, non? Alors, bon, bah, cette preuve, elle est fausse.
C'est moderne, il est sorti au milieu du 19e.
Cette preuve est fausse, et je vais prendre un article tiré de la Croix d'août dernier, de Gaël Giraud, qui est économiste en chef de l'Agence française de développement, directeur de CNRS, professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. Enfin, lui, il est tout à fait contre cette vision. Parce que, d'abord, première remarque, on peut quand même pas nier le début, hein, les plus fortunés ont une propension à consommer inférieure à celle des plus pauvres. Pour 1 euro de revenus supplémentaires, les 1% les plus riches dépenseront à peine 70 centimes, alors que les 10% les plus pauvres dépenseront tout l'euro. Hein. Mais ce surcroît d'épargne rendu possible ne vient pas, mais alors, ou ne vient plus alimenter l'investissement. Si cette relation a été un temps automatique, mais l'économie mondiale ne marche plus comme ça. Elle est maintenant piégée, on en a parlé tout à l'heure, par la spéculation. D'ailleurs, on peut le voir, jamais les catégories sociales les plus favorisées n'ont autant épargné qu'aujourd'hui. Et depuis 10 ans, pourtant, l'investissement baisse. Si on en croit le FMI, il a chuté, il est à 24% d'investissement, je ne sais pas ce que ça veut dire ce chiffre, en 2007, il est passé à 20% en 2016. Il est en chute constante. Et que devient cette épargne surabondante? Ben, je dis, elle est mise dans les paris financiers qu'on appelle la bourse.
C'est ce qu'on appelle une belle chute de rien.
Mmh, tout à fait. Mais en fait, on peut même penser que l'investissement n'a plus aujourd'hui besoin d'épargne pour se financer. On pense que c'est grâce à l'épargne que quelqu'un va venir aider le développement d'une entreprise. Non, ce sont maintenant les banques commerciales, celles qui ont reçu de l'État une sorte de délégation de pouvoir frapper monnaie. Alors c'est un peu plus compliqué, elles sont surveillées par les banques centrales, elles peuvent pas faire n'importe quoi. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'elles peuvent tellement dépensé que lorsqu'elles font n'importe quoi et que ça mène à une crise, c'est a posteriori qu'on s'en rend compte. Et d'ailleurs, c'est les États et donc nos impôts qui viennent sauver la situation. Bon, c'est bien tout ça le problème, de toute façon. C'est que même ce fonctionnement-là fait qu'il n'y a pas non plus d'investissement et ce n'est pas l'épargne qui vient rebondir là-dessus. Mais alors, vous voulez encore une autre preuve, hein? Bah, c'est que là, depuis les années de 90, il y a plusieurs fois où il y a eu des reprises de croissance. Elle commence aux États-Unis d'habitude, puis elle vient lentement en Europe, et puis il ne se passe rien. Il n'y a pas de reprise économique à chaque fois qu'il y a une relance de la croissance, parce qu'il n'y a pas d'investissement. Ou alors, même quand il y a des investissements d'État, aujourd'hui, en Andalousie, par exemple, où il y a eu, dans les années 2000, d'énormes projets immobiliers avec beaucoup d'argent, on a construit des villes fantômes, mais il n'y a pas plus d'emplois dans ces zones-là qu'ailleurs. Alors, mais d'où vient ce fantasme? Alors, il est peut-être dans le fantasme des riches qui disent... Arrêtez de me faire payer des impôts. Hein. Celui-là, on voit bien d'où il vient. Mais il vient aussi de l'histoire. On en parle toujours. C'est les années 80. Thatcher et Reagan. Chacun de ces deux chefs d'État, à peu près simultanément, ont réduit la fiscalité pour les plus fortunés et tout allait bien pour tout le monde. Mais est-ce que c'est bien le lien direct de fait à cause, de cause à effet plutôt? Aux US, on oublie, c'est que finalement, l'administration Reagan a, en même temps qu'elle a exonéré les richesses, elle s'est endettée à fond en relançant les dépenses publiques. Ce n'était pas un pur libéral, finalement, et tout le bienfait américain ne vient pas que de ses épargnes d'impôts. Et pour Londres, dans les années 80, c'est le début de la City, c'est le début de la spéculation qui a enrichi, engraissé les Anglais, ils sont en train de le perdre en ce moment. Donc on ne peut pas nommer non plus qu'il y a un lien de cause à effet. Et tout ce que je viens de raconter, ce n'est pas des propos très gauchistes. Hein. Si on prend le FMI, le Fonds mondial international, il n'y a aucune preuve empirique de cette fameuse théorie. Il y a même un rapport de 2015 qui dit que plus la fortune des riches s'accroît, plus la croissance est faible, analysée expérimentalement. L'OCDE, un organisme qu'on peut considérer bien libéral, qui en 2014 avait une étude similaire, intitulée « Une société avec moins d'inégalités de revenus serait bénéfique pour tous ». Alors comment faire redécoller l'économie? Bon, bah, c'est un vaste débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si c'est un problème d'investissement... C'est notamment en Europe la principale faiblesse de notre croissance. Alors, on peut ne pas vouloir de croissance, mais si on est dans ce schéma d'économie, il y a des solutions. Redistribuer la richesse produite par une nation à ses membres les plus pauvres. Ça, ça réduit les inégalités et c'est égalitaire, mais ça favorise aussi durablement cette fameuse économie. Parce que ça accroît la consommation, ça revue la demande, ça remplit les carnets d'offres des entreprises. Non, on fait l'inverse. On épargne pour les plus riches et on met sous la coupe tout ce qui peut être en bas de l'échelle sociale. On peut aussi faire des relances avec une relance d'État, avec tenter de faire des TVA vertes, pourquoi pas de la rénovation thermique. Ça serait des réformes, mais bizarrement, c'est absolument pas celle de Macron. Alors, on enchaîne encore. Hein ?
Sinon, il y a la théorie du Robin des Bois. Hein. On enfile un col en vert et on va buter les riches.
Alors des Robin des Bois, il y en a. Il y a même des associations qui essayent de se battre, et entre autres ATTAC, dont on parle souvent dans l'émission. Et justement, lundi matin, ATTAC a enfin une plainte un peu noble, Apple, mais en examen, ATTAC.
Eh oui. Si je vous dis iPhone, vous pensez sûrement obsolescence programmée, exploitation des travailleurs, extraction polluante de métaux, course à la consommation. Mais ce n'est pas que ça. Apple, c'est aussi l'évasion fiscale. Et jusqu'en 2014, Apple déclarait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires réalisé hors des États-Unis dans des filiales enregistrées en Irlande. Parce que l'Irlande est un pays très accueillant, avec une fiscalité très favorable aux multinationales. Et en moyenne, Apple payait 4,5 d'impôts sur ses bénéfices à l'international, c'est-à-dire beaucoup moins que dans son pays d'origine, les États-Unis. Plus précisément, Apple ne paye quasiment aucun impôt en France, alors que ses bénéfices en France sont loin d'être négligeables. Mais début 2015, l'Irlande s'est engagée à mettre de l'ordre dans sa fiscalité. Alors Apple a trouvé mieux que l'Irlande, Jersey, qui offre 0% d'imposition. Apple y a installé sa filiale irlandaise et son siège européen. Et depuis, ce sont 128 milliards de dollars depuis 2015 qui ont transité par Jersey. Alors en décembre, des militants d'attaque sont allés à Jersey et ont cherché le siège de ce géant. Ils cherchaient un grand bâtiment en verre pour brasser ces milliards. Ils ont cherché en vain, parce que Apple à Jersey, c'est juste une boîte aux lettres pour échapper à l'impôt. Alors ne dites pas que c'est un paradis fiscal, Jersey, puisqu'il ne figure pas sur la liste des paradis fiscaux adoptés récemment par l'Union européenne. La Commission européenne, pourtant, a quand même infligé à Apple une amende de 13 milliards d'euros pour évasion fiscale en août 2016. Et Apple n'a toujours pas payé. Alors à l'automne, ATTAC a lancé un ultimatum à Apple. Apple avait jusqu'au 1er décembre pour payer son amende, sinon la firme s'exposait à des actions désagréables. Apple a négligé cet ultimatum, n'a pas payé, alors ATTAC a mené une trentaine d'actions un peu partout en France le 2 décembre. Des actions symboliques, non violentes, menées à visage découvert et sans aucune dégradation matérielle. Par exemple, à l'Apple Store d'Opéra à Paris, il y a eu une occupation par une centaine de militants pendant plusieurs heures. Après ça, Apple a bien voulu discuter avec ATTAC. Et le 18 décembre, des militants d'ATTAC ont rencontré des représentants d'Apple pour discuter évasion fiscale. Malheureusement, les responsables d'Apple ont refusé de discuter sur le fond. Et pire que ça, Apple a assigné ATTAC en référé devant le tribunal de grande instance de Paris pour un procès le 12 février. Ce que demande Apple à la justice, c'est une astreinte de 150 000 euros pour toute future action qui ciblerait un Apple Store. C'est une manière de bâillonner ATTAC qui n'a évidemment pas les moyens de payer ça. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Le 12 février, jour du procès, ben c'est lundi, et ATTAC appelle à un rassemblement de soutien devant le TGI de Paris à partir de 12h15. Le TGI, c'est place Louis-Lépine, métro Cité, ligne 4. Si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez au moins signer l'appel pour la justice fiscale sur france.attaque.org. L'objectif est de 25 000 signatures pour l'instant et on a déjà 20 000 personnes qui ont signé. Sur ce site, vous trouverez aussi plusieurs vidéos sympathiques sur l'Empire Apple contre-attaque. Et si vous tweetez, les mots clics, c'est justice fiscale et Apple contre-attaque.
Alors justement, pour rebondir, une petite devinette, Darth Vader va faire les courses. Il achète 3 pommes et 2 tartes tatin. Pourquoi ?
Tatatin, papam.
Pom, 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 tatatin, tatatin.
Allez, on se fait 2 petites minutes d'agenda. Jean-Marc commence. Demain, c'est la fête à Notre-Dame-des-Landes.
Alors, Notre-Dame-des-Landes, rassemblement pour fêter l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, accueil des bus et des covoiturages à Notre-Dame-des-Landes, café, tartines, champs, plantations d'arbres, balades, déambulations, musique vers Bellevue et fête Fesnos, concert.
Et toujours demain à 17h, rue de Charonne, 177 rue de Charonne à l'AGK. C'est les ateliers des lois de la France insoumise et c'est sur le nucléaire, si on sortait du nucléaire. Donc discussion pour un meilleur avenir.
Toujours demain, samedi 10 février à 17h, place Pinel à Paris. Il y a un rassemblement pour obtenir les documents de régularisation auprès d'un employeur pour sauver, aider monsieur Diakaté Adama qui est en procédure de licenciement pour avoir avoué ne pas avoir ce titre. Après 2 ans comme plongeur, le patron ne veut pas lui donner les preuves de son emploi qui ne donnera pas de papier. Il faut retirer des mains des patrons le pouvoir de régularisation des salariés sans papier.
Samedi 10 février, le festival de l'acte théâtral engagé à l'espace Jean Ferrat, 21 rue Charles Bevin à Créteil. À 14h30, il y aura une rencontre, débat, projection. Le théâtre engagé comme arme de culture dans les milieux populaires depuis les années 70. À 18h, Sois rebelle et tais-toi de Kaina et compagnie, des femmes qui racontent leur histoire personnelle. Donc c'est samedi 10 février de 14h30 à 18h.
Dimanche 11 février 2018 à 19h, Bibliothèque associative de Malakoff, impasse Carnot, atelier d'artivisme, art et activiste.
Lundi 12 février à 19h, 9 rue François Deberg à Montreuil, c'est café-librairie Michel Firk et présentation de l'Atlas des migrants en Europe, approche critique des politiques migratoires de Migreurope, présentation et discussion avec des chercheurs et des chercheuses ayant participé à l'Atlas.
Le 12 février à 19h dans la Sciences Po, rue des Saints-Pères à Paris, conférence inaugurale de la semaine contre l'état d'urgence permanent. Avec un régime restreint de liberté d'expression, comment arriver à combattre ces lois sécuritaires?
Lundi 12 février à 20h au cinéma Les Sept Parnassiens à Montparnasse, une projection débat avec Attaque Paris 14e et le CADTM sur l'audit Enquête sur la dette grecque, un documentaire de Maxime Couvaras avec le CADTM.
Mardi 13 février à 19h45 à l'Université Paris 1 à la Sorbonne, amphithéâtre Lefebvre, conférence « L'écologie confiée à l'économie », événement organisé par les économistes atterrés. Pouvons-nous continuer longtemps comme ça la répartition mondiale des ressources?
Mercredi 14 février à la Bourse du Travail à Saint-Denis, 911 rue Génin, une réunion contre la destruction de l'assurance chômage depuis le 11 janvier, des concertations qui concernent la réforme de l'assurance chômage.
Bon, ben, l'heure se termine. Donc, je termine par le samedi 3 mars à 10h à Bure. Si vous avez aimé Notre-Dame-des-Landes, venez vous occuper aussi de l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Un week-end de renforcement de l'occupation et rencontre intercomité. Accordons nos montres contre l'Andra qui va faire l'enfouissement. Pour cela, si vous êtes sur Paris, vous pouvez aussi profiter pour préparer le jeudi 15 février au café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre, avec une projection débat. Et aussi l'AG du comité de soutien parisien qui sera le jeudi 22 février à 19h à Ivry.
Et venez en robe.
Venez en robe de Bure, bien entendu. On termine l'émission par une petite musique. Et encore une musique brésilienne, Gaël.
Et oui, encore Caetano Veloso. Et cette fois-ci, c'est Keisha.
Et non, on a oublié de remercier tout le monde quand même. Alex, Jean-Marc, Gaël, Stéphane au téléphone et puis Ludo à la technique. Allez, on revient au Brésil.
Oui, donc je disais, c'est Caetano Veloso et c'est Keisha.